RFI, il est 5h en temps universel, 6h à Paris, 8h à Damas.
Marion Cazeneuve.
RFI Matin commence, 3h d'information d'abord avec le journal. Bonjour Alban Le Prince.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
À la une, plus de 1000 morts en Syrie.
Dont 745 civils alaouites dans des affrontements meurtriers depuis jeudi entre les fidèles de l'ancien régime syrien, les nouvelles autorités et cette question, où sont passés les hauts dignitaires de Bachar al-Assad? Devenu un symbole des lourdes pertes, 3 mères de soldats russes ont reçu hier pour la journée des droits des femmes un hachoir comme cadeau, un présent qui suscite la controverse alors que Moscou progresse sur le front ukrainien. Dans ce journal, également l'Allemagne et cet accord de principe trouvé entre conservateurs et sociaux-démocrates pour former un gouvernement. Les négociations ont essentiellement porté sur l'immigration et le renforcement drastique des contrôles aux frontières notamment. Et puis John Dramani Mahama en tournée dans les pays de l'AES. Le président du Ghana était à Bamako hier. Objectif, convaincre les pays du Sahel de renouer le dialogue avec la CEDEAO.
En Syrie, les autorités veulent ramener l'ordre dans l'ouest du pays.
Les régions de Tartous et Latakié, bastion du clan al-Assad où les écoles resteront fermées demain. Depuis jeudi, des affrontements avec les fidèles de l'ancien régime ont déjà fait plus de 1000 morts, dont 745 civils alaouites, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Un début d'insurrection sur lequel plane l'ombre des anciens officiers de Bachar al-Assad, Nicolas Falaise.
C'est l'un des mystères de la chute de Bachar el-Assad en décembre dernier. La disparition soudaine de hauts dignitaires du régime, parmi lesquels des officiers de haut rang. Certains se sont volatilisés à l'étranger, d'autres se cachent probablement dans les montagnes de la région de Latakié, fief de la minorité alaouite à laquelle appartiennent nombre de figures de l'ancien pouvoir. L'un de ces fugitifs a brusquement refait surface ces derniers jours. Raif Dalla, ancien officier de la 4e division de l'armée syrienne. Le voici à la tête d'un conseil militaire pour la libération de la Syrie qui revendique la tentative d'insurrection armée contre le nouveau pouvoir de Damas. Le nouveau pouvoir syrien assure par ailleurs que les insurgés sont liés à Swahil Hassan, un proche de Bachar el-Assad, ayant participé aux épisodes les plus féroces de la répression pendant la guerre, mais aucun élément à ce stade ne permet de confirmer qu'il est lié aux événements récents. Enfin, Ibrahim Hawija a bien été arrêté lors des affrontements de ces derniers jours. Il est aux mains des nouvelles forces de sécurité syriennes. L'homme est un ancien dirigeant très redouté des services de renseignement du régime al-Assad.
Nicolas Falaise et la France a réagi à cette flambée de violence. Elle condamne avec la plus grande fermeté les exactions contre les civils sur une base confessionnelle et des prisonniers. Les églises syriennes dénoncent de leur côté les massacres de civils innocents et appellent à la fin immédiate de ces actes horribles.
Toujours au Proche-Orient, le Hamas demande l'ouverture immédiate des négociations pour la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza.
Après avoir évoqué hier des signaux positifs lors de discussions avec les médiateurs au Caire en Égypte, de son côté, Israël a annoncé l'envoi d'une délégation au Qatar demain pour discuter de la suite de la très fragile trêve dans l'enclave palestinienne où deux personnes ont été tuées hier dans une frappe à Rafah.
La France va mobiliser 195 millions d'euros pour l'Ukraine grâce aux intérêts des avoirs russes gelés. C'est ce qu'annonce ce matin Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, dans le journal La Tribune dimanche.
L'Australie, elle, dit envisager prendre part à une mission de maintien de la paix dans le pays une fois un cessez-le-feu en vigueur. C'est dans ce contexte qu'une délégation ukrainienne doit rencontrer mardi en Arabie Saoudite une équipe américaine, alors que sur le front, Kiev est de plus en plus en difficulté. Moscou a revendiqué la prise de 3 villages dans la région de Koursk hier, 8 mars, journée internationale des droits des femmes pour laquelle 3 maires de soldats russes tués au front ont reçu des hachoirs en guise de cadeau. La correspondance pour RFI de Jean Didier Revoin.
Et dans la conscience russe actuelle, ces hachoirs à viande rappellent tristement le surnom de la sanglante bataille de Bakhmout en Ukraine, où des dizaines de milliers de soldats russes ont péri. Comment ne pas s'étonner d'avoir vu fleurir sur les réseaux toute une série de commentaires outragés comme « honte » ou « cadeau inapproprié » sous la publication des photos de ces femmes, fleurs et hachoirs à viande dernier cri à la main. L'action initiée par la branche de Mourmansk du premier parti russe et intitulée « Des fleurs pour les mères des héros » a certes fait le buzz, mais s'est avérée contre-productive. Les responsables de l'antenne chaînes locales de Russie Unie ont alors tenté de se justifier. Le hachoir ne devait pas faire partie des cadeaux, mais une femme l'a demandé et bien sûr, nous ne pouvions pas refuser, a expliqué le maire de Mourmansk dans le nord du pays. Et on aurait presque tendance à le croire. En Russie, le 8 mars, les femmes sont traitées comme des reines. Fleurs et petits cadeaux se multiplient en famille et même dans les entreprises, les hommes organisent chaque année une collecte pour offrir des cadeaux à leurs collègues féminines qui bien souvent les orientent sur ce qu'elles souhaitent recevoir. Jean-Didier Revoin, Moscou.
Et nous sommes tous convaincus que nous avons une grande tâche à accomplir. Les mots hier de Friedrich Merz, le futur chancelier allemand.
Le conservateur a annoncé avoir trouvé un accord de principe avec les sociaux-démocrates pour former un gouvernement de la défense à l'immigration en passant par l'économie. La feuille de route radicalement différente de celle d'Olaf Scholz s'est désormais établie. Les précisions de Nathalie Versieux.
L'accord négocié hier à Berlin porte largement sur la politique migratoire. C'était l'une des principales promesses de Friedrich Merz pendant sa campagne, mettre fin à l'immigration illégale.
Dès le premier jour de notre gouvernement commun, nous développerons de façon massive les contrôles aux frontières. Ainsi, nous pourrons considérablement augmenter le nombre de reconductions à la frontière. Nous inscrirons de nouveau dans la loi migratoire l'objectif de réduire le nombre des arrivées. Nous suspendrons le regroupement familial pour les personnes disposant d'un titre de séjour temporaire et nous lancerons une politique d'expulsion offensive.
Une couleuvre à avaler pour le SPD qui doute de la conformité de certaines de ces mesures avec la législation européenne. Le futur contrat de coalition portera leur marque sur deux points, la hausse du salaire minimum à 15 euros et le vaste plan d'investissement dans les infrastructures de 500 milliards d'euros présenté en début de semaine. Nathalie Versieux, Berlin, RFI.
Et les négociations détaillées doivent débuter la semaine prochaine pour conduire d'ici Pâques à un contrat de coalition pour les 4 ans à venir.
Le Canada, lui, s'apprête à changer de Premier ministre.
Le parti au pouvoir va choisir aujourd'hui le successeur de Justin Trudeau. C'est l'ancien directeur de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Canada, Mark Carney, 59 ans, qui est donné largement favori pour le remplacer après 10 ans au pouvoir et l'annonce en janvier de sa démission. Il faudra probablement attendre plusieurs jours avant qu'une passation de pouvoir ait lieu.
Après le départ en janvier des pays de l'AES, de la CDAO, le Burkina Faso, le Niger et le Mali, le président du Ghana tente de recoller les morceaux.
John Dramani Mahama était à Bamako hier pour tenter de convaincre le général Assimi Goïta de renouer le dialogue avec la CDAO. Une première étape alors que John Dramani Mahama doit se rendre dans les deux autres capitales saliennes bientôt. La correspondance régionale pour RFI de Serge Daniel.
Le président John Dramani Mahama entend redynamiser les relations de son pays avec le Mali à l'issue de sa visite à Bamako. Il a annoncé la tenue prochaine de la grande commission mixte de coopération Mali-Ghana. D'ores et déjà, le président ghanéen a déclaré que les installations portuaires de son pays étaient à la disposition du Mali, pays qui n'a pas de façade maritime. Son offre est également valable pour les deux autres membres de l'Alliance des États du Sahel, le Niger et le Burkina Faso. Le départ de ces trois pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, fut un autre sujet de discussion. L'hôte du Mali a attentivement écouté sur le sujet le chef de la junte locale. Son commentaire devant la presse, je cite, « Il devrait y avoir un minimum de respect mutuel entre la CEDEAO et les trois pays de l'AES. » Il ajoute, « Le manque de confiance est à la base des discordes, mais nous pensons que c'est encore possible de trouver un terrain d'entente. » Fin de citation. En attendant, John Dramani Mahama est un fervent partisan de l'amélioration des relations entre les trois pays dirigés par des putschistes et l'organisation régionale. Serge Daniel, Dakar, RFI.
Le pape réagit bien à son traitement, fait savoir le Vatican dans son dernier bulletin de santé. Hospitalisé pour une double pneumonie depuis plus de 3 semaines maintenant, son état général s'améliore progressivement. Il n'a toujours pas de fièvre et ses analyses de sang restent stables.
Près de 330 000 foyers privés d'électricité en Australie après le passage de la tempête Alfred.
Ils doivent se préparer à rester sans électricité pendant plusieurs jours, selon les fournisseurs d'énergie australiens. Hier, le corps d'un homme de 61 ans emporté par les eaux a été retrouvé. 13 soldats ont également été blessés dans la collision de 2 camions militaires en mission de secours. 12 sont toujours hospitalisés.
RFI 5h09, en temps universel. Des centaines de milliers de personnes ont manifesté hier 8 mars dans le monde entier pour défendre les droits des femmes.
Au moins 47 000 à Paris, selon la police, 25 000 à Madrid, 3 000 à Istanbul ou encore des dizaines de milliers à Buenos Aires, la capitale argentine où les manifestants ont dénoncé dénoncer la politique du président ultralibéral Javier Milei, alors que son gouvernement a publié une vidéo dans laquelle il se félicite d'avoir, depuis son arrivée au pouvoir, fermé le ministère des Affaires féminines ou encore éliminé les services consacrés à la promotion des femmes dans les agences de l'État. Le reportage pour RFI de Théo Conscience.
Devant le congrès à Buenos Aires, des dizaines et des dizaines de paires de chaussures peintes en violet. À côté de chacune d'entre elles, un visage en noir et blanc et une date de décès. Les féminicides existent, martèlent les proches des femmes à qui ont appartenu ces paires de chaussures. Une réponse au président argentin Javier Milei, qui souhaite supprimer la figure du féminicide du code pénal. Marcela est la mère de Julieta Mena, assassinée par son compagnon en 2015.
Nous avons voulu représenter les femmes qui ne sont plus parmi nous. Ici, il n'y a que 162 d'entre elles qui sont représentées. C'est une infime partie, puisqu'en réalité, plus de 350 femmes sont tuées chaque année.
Un peu plus loin, Mélanie noue un foulard vert, symbole de la lutte pour le droit à l'avortement, autour du poignet de sa fille Lucia, 9 ans.
C'était important de venir avec elle, car je crois qu'il faut aborder les bases de la pensée féministe dès le plus jeune âge, pour qu'elle ne se laisse écraser par rien, ni personne.
C'est entre autres en descendant dans la rue et en occupant l'espace public que les Argentines ont conquis le droit à l'avortement il y a 5 ans. Alors que ce droit est aujourd'hui remis en cause par Javier Milei, c'est également dans la rue que le mouvement féministe l'a défendu hier. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
On termine ce journal avec une femme, justement une chanteuse française d'origine malgache, passionnée d'Argentine, Mandy Le Rouge.
Elle vient de sortir son deuxième album Del Chero, un hommage au chanteur populaire sud-américain Atahualpa Yupanqui, mais pas seulement, Sophie Tanlotin.
Et si c'était une femme, une française, qui avait écrit certaines des plus grandes œuvres de la musique argentine? C'est la découverte que fait Mandy Le Rouge, enfant du métissage, née d'un père malgache et d'une mère française, lors d'un de ses voyages dans son pays d'adoption, l'Argentine. Après un premier album remarqué il y a 4 ans, cette cavalière émérite, qui s'épanouit au pays des gauchos depuis une dizaine d'années, se penche sur le répertoire d'un autre chanteur métissé, Atahualpa Yupanqui, mort en 1992.
Il me galope dans le sang.
Le compositeur d'une centaine des œuvres de ce poète s'appelle Pablo Del Chero. Mais ce mystérieux Del Chero est en fait le pseudonyme d'Antoinette Pépin Fitzpatrick. Chero Colorado, un village à 900 km de Buenos Aires, Mandy Le Rouge retrouve la trace du fils des deux artistes argentins qui lui confie les archives de sa mère, compositrice. Dans ses cartons oubliés, Mandy Le Rouge découvre une œuvre inédite et inachevée d'Antoinette Pépin qui peut enfin prendre vie sur ce bel album.
Sobre los campos la tarde.
Mandy Le Rouge en tournée actuellement en France. Elle passera par le Café de la Danse à Paris le 26 mai. Il reste des places.
Et c'était le journal d'Alban Le Prince. Il est 6h13 à Paris, 5h13 en temps universel. On est ensemble pour 3 heures d'information avec nos chroniques, nos reportages. On parlera de la guerre en Ukraine dans RFI Matin. On verra dans la chronique Défense les conséquences du gel de l'aide américaine à Kiev. Ce vide sera difficile à combler. De son côté, le président français tente, en prenant la main sur cette crise, en s'affirmant parmi les 27, de se réaffirmer lui-même justement sur la scène politique intérieure. On le voit dans quelques minutes avec Valérie Gass. Dans ce contexte, un gouvernement semble se dessiner en Allemagne avec un accord de principe trouvé hier entre les conservateurs de la CDU et le centre-gauche du SPD. On y revient avec notre correspondante à Berlin dans le journal de 7h, temps universel. Le reportage Afrique, ce matin, nous emmène au Sénégal avec cette initiative espagnole qui propose des formations professionnelles avec surtout des embauches à la clé et qui offre ainsi une alternative à l'émigration clandestine vers l'Europe.
À la suite de toutes ces expériences, j'ai pris la décision de laisser tomber la migration, de rester au pays et de suivre une formation professionnelle. Je me suis dit que grâce à ça, je pourrais peut-être trouver le moyen de voyager légalement à la suite de ma formation.
Le tour du monde des correspondants ce matin en Italie, Équateur et Afrique du Sud. On verra comment fonctionnent les prisons de haute sécurité entre inquiétude des ONG de défense des droits humains chez les uns et fragilité du système carcéral chez les autres. On reverra aussi nos classiques, les meilleurs tubes disco, leur histoire disséquée en ce moment à la Philharmonie de Paris dans une grande expo. On y fera un tour bien sûr dans le reportage culture RFI Matin. Voilà le programme, bienvenue à tous et bon réveil. Au Proche-Orient, une trêve toujours très fragile entre Israël et le Hamas. On l'a vu dans le journal, la première phase a expiré techniquement il y a une semaine et demain, une délégation israélienne se rendra à Doha pour discuter de sa poursuite. Pendant ce temps, l'armée israélienne poursuit son offensive en Cisjordanie occupée avec des raids réguliers dans plusieurs villes, un contrôle renforcé aussi au checkpoint, ce qui complique un peu plus la vie des Palestiniens, notamment des femmes enceintes. Certaines parfois y accouchent à ces checkpoint. Il arrive aussi que des femmes y perdent la vie. Pour aider ces Palestiniennes, une clinique mobile sillonne le territoire. Amira Souilem a rencontré les médecins de cette clinique. Reportage.
Sourire aux lèvres, Hiba, institutrice d'une trentaine d'années, se remet doucement de ses émotions.
Mon bébé est né à 13h. Je suis arrivée à la maternité à 12h15. J'ai mis plus d'une heure 15 pour arriver ici. Alors qu'en temps normal, le trajet ne dure pas plus de 15 minutes. La route depuis mon village était fermée, donc on a dû faire un détour par un autre village pour arriver jusqu'à Bethléem. J'ai eu peur de devoir accoucher sur la route.
C'est donc aussi pour ça que vous avez l'air si heureuse ?
C'est quand même mieux.
Face à cette situation qui se complique sur le terrain, la maternité a décidé de lancer une clinique mobile. Comme beaucoup de femmes peinent à venir à eux, les médecins ont décidé d'aller à elles.
Je suis le docteur Wissem Rer, je suis pédiatre.
Et moi je suis Dana Amro, gynécologue.
Là, on prend la direction d'Al-Rashaïda. Ce sont des localités rurales en périphérie de Bethléem.
L'équipe se prépare à accueillir les premières patientes. La clinique mobile fonctionne grâce à un générateur.
Alors, à l'arrière de la clinique mobile, on trouve la table de consultation. On a aussi un dispositif portatif qui permet de faire des échographies. Là, juste derrière toi, il y a des rideaux. On les tire dès qu'une patiente arrive pour assurer une certaine intimité.
Toute la journée, les consultations vont s'enchaîner.
Montez sur la table et découvrez votre ventre. Alors ça, c'est le bruit du bébé.
Est-ce que vous voyez son sexe ?
C'est un petit garçon.
Tout va bien pour cette patiente. L'accouchement est prévu dans un mois. Les femmes affluent. Parmi elles, une jeune maman angoissée qui porte dans ses bras un nourrisson. L'enfant a 10 jours, il a de la fièvre, il est pâle. Sa situation inquiète le docteur Wissem Khir, qui hausse le ton envers la villageoise.
Le bébé ne prend pas de poids et il a de la fièvre. Il faut qu'on le surveille. J'aimerais que tu viennes avec lui dans 2 jours à l'hôpital. Tu vas pouvoir venir ?
Ça va être compliqué à cause des transports.
Alors que l'opération mur de fer se durcit en Cisjordanie occupée, l'équipe médicale de cette clinique mobile dit ne s'être jamais sentie aussi utile. Amira Souilem, de retour de Bethléem, RFI.
Vous retrouvez le reportage international, vous le réécoutez sur notre site RFI.fr ou bien sur notre application Pure Radio. Et on reste au Proche-Orient, on part au Liban. Le Liban qui s'apprête à célébrer un triste anniversaire, les 50 ans du début de la guerre civile. L'élément déclencheur est la fusillade le 13 avril 1975 d'un bus transportant des Palestiniens à Beyrouth. Dans un ouvrage, le journaliste Marwan Shaïn part sur les traces de ce massacre. Ce livre s'appelle « Beyrouth, 13 avril 1975, autopsie d'une étincelle ». Marwan Shaïn en parle avec Nicolas Feldman.
Bonjour Marwan Shaïn.
Bonjour.
Déjà, première question, pourquoi avoir choisi de travailler sur ce massacre du 13 avril 1975 ?
Alors cet événement du 13 avril 1975, ce qui est très étonnant, c'est que tous les Libanais le connaissent, et pourtant personne ne sait ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Et moi, c'est ce qui m'a interpellé quand je suis arrivé au Liban en 2015, donc je connaissais un peu l'histoire du pays, mais pas plus que ça, et j'ai découvert que donc cet événement qui est considéré comme l'événement déclencheur de la guerre, n'avait jamais été réellement documenté. Même à l'endroit où il a eu lieu, il n'y avait pas une plaque commémorative pour dire « ici a commencé la guerre civile libanaise ». Donc j'ai essayé de comprendre en fait ce qui s'était passé ce jour-là et les raisons de l'amnésie. Donc j'ai commencé par écrire un petit article à l'occasion des 40 ans du début de la guerre civile. Je me suis rendu compte qu'en fait on pouvait savoir plein de choses contrairement à ce qui était généralement dit. De fil en aiguille, je me suis laissé entraîner dans cette enquête qui a pris presque 10 ans de ma vie.
Oui, une enquête qui devait durer 2 semaines et donc qui a duré une décennie. Pour mener cette enquête, vous exhumez des articles de presse, vous ressortez des rapports de police, vous partez à la recherche des protagonistes et des témoins. Vous parvenez à rétablir des faits, mais il est difficile, voire impossible, d'établir une réalité, une vérité sur le déroulé du drame. Comment expliquer ces difficultés ?
Alors, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est le fait que c'est un événement qui a aujourd'hui 50 ans. Et donc, du coup, ça commence à remonter un petit peu. Mais par ailleurs, il y a pas d'archives. Donc, c'est essentiellement du bricolage et recouper des témoignages. Si certains sont sans doute fondés, d'autres sont réinventés volontairement ou pas. Et donc, voilà, c'est un peu difficile parfois de trier le bon grain de livret, quoi.
D'ailleurs, à ce propos, Marwan Shaheen, vous écrivez « Au Liban, il n'y a pas de mémoire de la guerre, mais une guerre des mémoires ». C'est ça aussi la difficulté dans votre travail ?
Oui, c'est la difficulté et l'intérêt aussi, je crois, parce que en fait, après la fin de la guerre qui s'est terminée en eau de boudin, il n'y a pas eu de travail de réconciliation nationale. La raison principale, c'est qu'il y a eu une loi d'amnistie qui a replacé les seigneurs de guerre dans le jeu politique et institutionnalisé d'une certaine façon l'amnésie. Et du coup, chacun est reparti avec sa mémoire dans son coin, sans qu'on se mette d'accord. Sauf que ces mémoires dont chacun a hérité, c'est des mémoires assez belliqueuses qui sont d'une certaine manière la continuation de la guerre par d'autres moyens. Donc c'était un peu, voilà, tenter de dépasser cette aporie qui m'a intéressé dans cette affaire. Et je crois que j'avais aussi envie de montrer toutes les mémoires déformées qu'il pouvait y avoir de ce même événement pour montrer, voilà, à la fois cette difficulté assez importante dans le pays.
Ce livre, il est paru en septembre 2024. Comment est-ce qu'il a été reçu au Liban ? Est-ce que vous avez eu des retours ?
Alors, il est sorti dans un contexte un peu particulier, puisqu'il est sorti à quelques semaines de l'offensive israélienne sur le Liban. Donc, du coup, les gens avaient aussi beaucoup plus l'esprit au présent qu'au passé, entre guillemets. Après, il a eu, des premiers retours que j'ai. Je sais qu'il s'est bien vendu au Liban. Et j'ai reçu beaucoup de messages de Libanais, des messages très touchants de gens qui étaient contents qu'on parle de la guerre et qu'on en parle d'une autre façon. Pas seulement à reproduire les récits héroïques qu'on avait dans les familles, mais à trouver une autre manière d'en parler. Et beaucoup de gens de tout âge et de tout bord, et c'est ce qui m'a beaucoup touché, m'ont écrit pour me dire qu'ils étaient heureux qu'on parle de cette histoire qui est un peu la leur.
Vous donnez aussi beaucoup de vous dans ce livre qui est écrit à la première personne. Vous faites part, bien sûr, de vos avancées, mais aussi de vos doutes tout au long de votre enquête. Plus qu'une enquête, est-ce que c'est aussi une quête personnelle, ce livre ?
Oui, vous avez raison. Je pense que c'est une quête-enquête, ce qui n'était pas le but initial. Mais assez vite, je me suis rendu compte que je pouvais pas rester complètement en dehors, dans la mesure où j'étais moi aussi une de ces mémoires libanaises tourmentées. Et que je pouvais pas non plus demander aux gens de me donner beaucoup de leur personne sans donner de moi-même et sans m'exposer moi-même. Donc voilà, et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'à travers ces gens, c'est à ma propre histoire qui me renvoyait.
Merci beaucoup Marwan Shaheen.
Merci à vous.
Le journaliste et écrivain Marwan Shaheen, auteur de Beyrouth, 13 avril 1975, Autopsie d'une étincelle, livre publié aux éditions Belfond. On passe à notre chronique politique française. Cette semaine, le président a été au centre du jeu, chaque jour ou presque. Emmanuel Macron s'est exprimé sur la guerre en Ukraine, un dossier qui pourrait d'ailleurs l'aider à se remettre en selle après sa dissolution ratée de l'Assemblée nationale et la censure du gouvernement Barnier il y a quelques mois. Valérie Gasse, avec le conflit ukrainien, Emmanuel Macron peut-il trouver un second souffle ? En tout cas, c'en est fini de la période d'effacement pour Emmanuel Macron. Avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche et ses revirements sur l'aide à l'Ukraine, Emmanuel Macron est remonté au créneau sur la scène diplomatique. On l'a vu partout, de Washington à Bruxelles, en passant par Lisbonne, essayant de jouer les intermédiaires avec un président américain imprévisible, de se concerter avec les Européens et Volodymyr Zelensky pour engager le réarmement de l'Europe. Avec un message, l'heure est grave, la Russie représente une menace existentielle. Vladimir Poutine est un impérialiste révisionniste, et des interventions médiatiques à destination des Français, surtout les supports, presse écrite, réseaux sociaux, et finalement allocution solennelle. La crise géopolitique a permis à Emmanuel Macron de faire de la diplomatie son domaine réservé, une priorité nationale.
Alors que cherche Emmanuel Macron ?
D'abord à peser dans la négociation sur la paix en Ukraine et à défendre les intérêts de l'Europe, mais aussi à revenir dans le débat politique et à restaurer son image. Dans son camp, une députée pense que le jeu international est un bon levier pour le président, se réjouit de le voir remonter sur le ring et tacle tout ce qui s'écharpe sur les retraites alors que la guerre est à nos portes. Une manière de participer dans les pas du chef de l'État à la dramatisation de la situation qui justifie les efforts qui vont être demandés aux Français pour permettre la montée en puissance des dépenses militaires.
Emmanuel Macron peut-il marquer des points dans l'opinion, Valérie ?
Le chef de l'État l'espère certainement. Dans son allocution mercredi dernier, il a en quelque sorte appelé à la mobilisation nationale en expliquant à ses concitoyens « La patrie a besoin de vous ». Une enquête a indiqué que plus de la moitié des Français l'avaient trouvé convaincant. Emmanuel Macron réussit à être crédible sur le registre « chef de guerre, père de la nation ». Une ancienne ministre explique aussi qu'il a cette force d'avoir une lecture des défis de demain. Mais la question est de savoir si ce retour sur le devant de la scène en raison de la crise ukrainienne peut suffire à effacer durablement son image de président à bout de souffle.
La chronique politique signée Valérie Gasse. Comme chaque dimanche dans RFI Matin, Steven Jambeau nous propose un extrait de son émission L'Atelier des médias. Bonjour Steven.
Bonjour.
En écho à la Journée internationale des droits des femmes, c'était hier, vous discutez, Steven, de la place des femmes à l'ère de l'intelligence artificielle.
Oui, mon invité est la journaliste Mathilde Saliou, spécialisée dans les enjeux sociétaux du numérique. En 2023, elle publiait un livre intitulé « Technoféminisme, comment le numérique aggrave les inégalités ». Livre dans lequel elle racontait comment le milieu de la tech était historiquement fermé aux femmes. La faire revenir sur RFI, alors que les intelligences artificielles génératives ont déferlé sur le monde et sont maintenant accessibles au grand public, était une évidence.
Mathilde Saliou vous a partagé ses premiers constats.
Très vite, on s'est rendu compte que ces productions de contenu, je vais les appeler comme ça, elles reproduisaient toutes sortes de biais qu'on connaissait, qui existaient ailleurs dans la société, mais de manière très forte et pas forcément très conscientisée du coup par les constructeurs, puisque au moment où ils ont lancé des ChatGPT, des Stable Diffusion, etc., ils n'ont pas tellement mis de garde-fous pour éviter ces problématiques.
Et tes premiers constats, c'était quoi ?
Assez vite. Si on demandait par exemple à des modèles de génération d'images de fabriquer des images de CEO, PDG d'entreprise, ça allait être que des hommes, que des blancs. Si on demandait de produire des images de personnel de ménage, ça n'allait être que des femmes, que des personnes noires. Et en fait, ces clichés qui existent dans le monde occidental étaient produits en masse de manière complètement non questionnée, non questionnable d'ailleurs par la machine. C'était assez difficile de la faire évoluer vers des résultats un peu plus nuancés. Et donc assez vite, bien sûr, toutes les personnes spécialisées dans ces thématiques ont souligné le problème et demandé à des améliorations, ce qui a ensuite provoqué toutes sortes de débats, parce que certains considèrent que demander à une représentation plus proche de la réalité du monde, ça peut être une forme de censure pour des technologies de ce type.
Laisser se développer les technologies tout en veillant à ce que les femmes et toutes les minorités ne se retrouvent pas sur la touche ou qu'elles soient au contraire les cibles de toutes les outrances. Le sujet est d'actualité, mais il faut s'en emparer et des solutions existent.
Et Steven, on retrouve votre conversation avec la journaliste française Mathilde Saliou dans l'Atelier des médias à 11h10, temps universel. L'entretien est déjà disponible à l'écoute sur l'application RFI Pure Radio. Merci Steven Jambeau. À suivre sur RFI, l'actualité africaine.
RFI, la sélection du mois.
Beau et fort.
Dandy Gwell.
Autrefois dire cette phrase me demandait des efforts. Invite-nous dans ta ville si tu veux péter le score. Quand nous sommes ensemble, nous sommes.
Ghetto Koundé.
RFI Musique.
BPM.
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol.
Cette semaine, on vagabonde en chanson de la Nouvelle-Zélande au Ghana et du Canada au Japon. Et puis on rend hommage à Christian Picard, dit Carton, le leader charismatique de Raoul Petite, le doyen des groupes de rock français.
Bonne pulsation du monde avec Hortense Vol, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.
BPM.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Avec Emily Boom, romancière franco-camerounaise pour Le rêve du pêcheur. Traversée en sol majeur dans son Douala, son Anthropologie, sa Toni Morrison, son Blic Bassi et ses Maquisards, où l'on découvre aussi le lien entre le prénom Emily et la foi.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Tout à l'heure, à 15h10 temps universel et en podcast sur RFI.fr.